Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et ce matin, effectivement, nous poursuivons notre série sur le livre des psaumes. Cette série que j'ai intitulée « J'aime l'Éternel », comme le recueil de chants. Mais pour le moment, lorsqu'on regarde les deux premiers psaumes, eh bien, ça ne ressemble pas totalement à des chants ou à des prières adressées à Dieu. Le psaume que nous venons d'entendre ne ressemble pas du tout à un chant. Le premier psaume, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec Clément, nous indique, avec l'expression « heureux l'homme », que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu et en sa loi. Le juste, c'est celui qui ne suit pas le conseil des méchants, mais le conseil de Dieu, en méditant avec plaisir sa loi. Le deuxième psaume que nous allons voir aujourd'hui, le deuxième psaume est d'un autre genre. Les commentateurs le classent dans le genre des psaumes royaux. En effet, le psaume 2, comme nous l'avons entendu et comme cela nous a été préparé par aussi la première partie du culte, à travers les chants que nous avons entendus, les textes que nous avons entendus, le psaume 2 introduit le thème de la royauté, que nous retrouvons à plusieurs reprises dans les psaumes suivants. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Quelle est votre perception de la royauté? Comment vous imaginez, quand vous pensez à la monarchie, quand vous pensez à la royauté, vous pensez à quoi? Si une image devait la caractériser, laquelle choisiriez-vous? Plusieurs propositions. Si ça fonctionne. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Sinon, je le fais hop. Parce que maintenant, c'est tactile. Donc, soit vous pensez à ça. Peut-être, hein, on est en France. Quand on parle de monarchie, peut-être le premier roi qui nous vient en tête, c'est Louis XIV. Peut-être que vous pensez à ça. Parce qu'actuellement, y a bien des rois dans ce monde, et l'un d'entre eux, il est là, Charles III. Ou bien, vous pensez à ça, le tombeau vide. Et le tombeau est vide parce que le roi en est sorti. Mais je reviendrai sur cette image plus tard, d'accord? Nous avons peu d'indices concernant le contenu de ce psaume, le psaume 2. Il semble que le roi David en soit l'auteur. Un texte du Nouveau Testament nous l'indique en acte 4. Nous reviendrons aussi là-dessus. Il est aussi possible que ce texte, le psaume 2, ait été lu à de grandes occasions, telles que le jour du couronnement ou l'anniversaire de ce jour. Et en tout cas, comme nous allons l'aborder dans un instant, ce texte met en évidence la légitimité du roi qui est sur le trône d'Israël. Cela concerne bien sûr David, ainsi que sa lignée, comme nous l'avons entendu un peu plus tôt, jusqu'à l'ultime fils de David. Jésus-Christ. Nous l'avons encore chanté ce matin. Jésus est roi. Et plus précisément, il est le roi choisi par Dieu pour régner sur ce monde. Et comme dans le psaume 1, il y a deux chemins empruntés par l'humanité, deux attitudes devant le roi choisi par Dieu. Soit le rejet, soit la soumission. Heureux sont tous ceux qui choisissent la deuxième attitude, la soumission. Mais le psaume en question démarre avec l'autre réalité, le rejet. Et je relis les deux premiers versets de ce psaume. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. On est dans le début du livre des psaumes. Que ce soit le psaume 1 ou le psaume 2, nous avons l'évocation des méchants, nous avons l'évocation des pécheurs. Cela ne vous a pas échappé, je suppose. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par le mal, est marqué par le rejet de Dieu. Et comment ce rejet s'exprime-t-il ici dans notre texte? Nous voyons dans ces versets des nations, probablement étrangères à Israël. Nous voyons des rois, des chefs, des personnes qui détiennent l'autorité. Et le psalmiste pose la question, pourquoi cette agitation ? Cela nous fait penser peut-être à d'autres questions du type, pourquoi tant de mal ? Pourquoi tant de méchanceté ? Que voyons-nous encore dans ces versets ? Que ces souverains se concertent, ils se mettent ensemble, ils unissent leurs forces pour se rebeller. Et pas contre n'importe qui. Ces puissants rejettent l'autorité qu'exerce l'Éternel, le Dieu vivant. L'autorité qu'exerce également l'homme qu'il a choisi pour être le roi de son peuple. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un soulèvement contre n'importe quel roi. Il rejette précisément celui que Dieu a choisi. Celui qui a reçu l'onction pour exercer la royauté. Autrement dit, en un mot, le Messie. Aujourd'hui, quand nous entendons ce mot Messie, nous pensons tout de suite à Jésus. Nous pensons à Jésus. Mais à l'époque de David, le Messie désignait avant tout le roi que Dieu avait choisi par onction. David était le Messie. Ses descendants étaient les Messies, jusqu'au Messie ultime, qui est Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant pour nous, particulièrement en tant que chrétiens, c'est aussi que le mot Messie a été traduit en grec par Christ. Quand on dit Jésus-Christ, ou le Christ, ou Christ, on fait référence à sa royauté. Rejeter ce roi en particulier, celui que Dieu a choisi, revenait donc à rejeter Dieu lui-même. Voyons à présent la réaction de ces rois au verset 3. Regardez avec moi le verset 3. Arrachons leurs liens. Ce sont les rois qui s'expriment. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Qu'est-ce que réclament ces puissants ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la liberté. Ils se sentent enchaînés en restant sous la domination de Dieu et de son nom. Ils veulent la liberté. Regardez les verbes qui sont employés. Arrachons, jetons leurs chaînes loin de nous. Nous voulons être libres. Voilà ce qu'ils réclament. N'est-ce pas parfois la vision que nos contemporains ont de la vie chrétienne ? Pour eux, se soumettre à Dieu et se soumettre à sa loi, ce n'est pas être libre. C'est devoir suivre des commandements et des interdictions à ne pas transgresser. Ce n'est pas vivre comme on veut de suivre Dieu. Ce n'est pas être maître de sa vie. Ce que recherchent aujourd'hui les gens de notre temps, ils veulent être maîtres de leur vie. Ils veulent la liberté vis-à-vis de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. À cet égard, depuis l'époque du psaume 2 jusqu'à aujourd'hui, la rébellion à l'égard de Dieu ressemble toujours à cette revendication, vouloir être libre. Pourquoi les hommes se rebellent contre Dieu ? Ils veulent être libres. Ils ne veulent pas du règne de Dieu. Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui désire véritablement notre liberté, c'est Dieu, notre Créateur. C'est lui qui veut vraiment nous rendre libres. Libre à l'égard du péché. En réalité, tout au long de sa parole, Dieu ne cesse de nous appeler à nous soumettre à lui et à sa loi, car c'est dans ce cadre seulement que nous serons réellement libres. Tout au long de sa parole, Dieu fait cet appel. Soumettez-vous à Dieu et vous serez libres. Alors, quelle liberté cherchons-nous ? Une liberté vis-à-vis de Dieu ou une liberté vis-à-vis du péché ? Dieu nous appelle à cette liberté de faire le bien, sans être prisonnier de notre état de pécheur. Voilà où se trouve la vraie liberté. La capacité de savoir dire non au mal, non au péché, et d'avoir la pleine liberté de dire oui à tout ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu. Mais pour les rebelles, l'esclavage n'est pas le péché. Pour les rebelles, l'esclavage, c'est Dieu. Et ils veulent s'en libérer. Et leur perception est totalement inversée, vous vous rendez compte ? Aveuglés par le diable. Nous voulons être libres vis-à-vis de Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Et si nous avons de bonnes raisons de penser que le psalmiste de ce psaume n'est autre que David, alors nous comprenons qu'il fait référence à une certaine opposition qu'il a lui-même vécue au moment où il accédait au trône. Et après David, les autres rois de sa lignée ont toujours été aux prises avec des nations ennemies qui voulaient écraser leur royaume. Et celui qui vient après tous, Jésus, a aussi connu ce rejet, cette forte opposition, qui l'a conduit dans son cas jusqu'à la mort. Dans le livre des Actes, quand les chrétiens ont fait face à la persécution de la part de leurs dirigeants, ils se mettent à prier de cette manière. Actes chapitre 4, à partir du verset 24, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Jésus, le fils de David, le Messie, a été l'objet d'une ligue contre lui, de la part des Juifs et des non-Juifs. Et dans le cas de Jésus, cela faisait partie du plan de Dieu pour notre salut. Il fallait que cela arrive. Et quand nous y pensons un instant, l'affaire Jésus, si je peux l'appeler ainsi, l'affaire Jésus est allée assez loin. Elle a été portée jusqu'aux autorités romaines. Ce modeste prédicateur de Galilée qui attirait les foules et qui faisait des miracles a été condamné pour le motif suivant, accroché sur la croix, le roi des Juifs. Et je ne peux m'empêcher de lire un extrait de l'évangile de Jean, chapitre 19, et notez comment Jean nous raconte le moment où Pilate est sur le point de relâcher Jésus. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « à mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Il pria donc Jésus et l'emmenèrent. Avez-vous noté comment Jean présente la scène? Pour les uns, Jésus n'est qu'un prétendu roi, et ils ne veulent pas de lui. Mais Pilate joue un peu sur ce registre, et il dit, « Voici votre roi, vous voulez crucifier votre roi ?» Et notre Seigneur n'a pas reculé devant une telle opposition. Il a pleinement vécu ce que nous lisons dans ce psaume 2. Et pour encourager ses destinataires, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit aussi au sujet de Jésus, Hébreux chapitre 12, verset 3, « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Pensez à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. En ce qui nous concerne, ne nous étonnons pas de vivre parfois dans nos cercles de proches et d'amis le rejet à cause de notre foi en Jésus, précisément parce qu'il rejette notre roi. Oui, aujourd'hui, cette opposition contre Dieu s'exprime à la fois par l'opposition contre le Messie, ainsi que contre celles et ceux qui suivent ce Messie. Et l'apôtre Paul a aussi prévenu Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 12 et 13. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Donc, ne soyons pas étonnés d'un tel rejet lorsque nous le vivons nous-mêmes. La tonalité, pour revenir au psaume 2, la tonalité de ce début du psaume n'est pas réjouissante. Mais le renversement ne tarde pas à venir. Et je vous propose de le voir ensemble. Renversement immédiat avec le verset 4. Le psalmiste déclare « Celui qui siège dans le ciel rit. » Le Seigneur se moque d'eux. C'est le verset 4. « Celui qui siège dans le ciel rit. » Le Seigneur se moque d'eux, de ceux qui sont en train de s'agiter, de ceux qui se rebellent contre lui. Le soulèvement des puissants, qui en apparence peut être impressionnant d'un point de vue humain. Quand quelqu'un qui a du pouvoir nous menace, cela ne nous fait pas rire, nous. Mais quand il s'agit d'hommes, de créatures qui se révoltent contre Dieu, alors Dieu rit. Le psalmiste marque d'ailleurs cette distance incommensurable entre Dieu et les hommes. Dieu est celui qui siège dans le ciel. Et il se moque de ceux qui s'agitent sur terre. Dieu rit parce que les hommes qui contestent pensent réellement faire le poids contre lui. Mais qu'est-ce que l'homme, cet amas de poussière? Qu'est-ce que l'homme pour lutter contre Dieu? Tous ceux qui veulent se soulever contre Dieu s'en mordent les doigts. À coup sûr. Il n'y a pas photo. Dieu est au ciel et les hommes sont sur la terre. Qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire à Dieu? Comment pourraient-ils même l'atteindre? Le fait que Dieu soit au ciel indique sa supériorité absolue et sa souveraineté sur tout ce qui se passe ici-bas. Il est au ciel. Personne ne peut l'atteindre. Notre Dieu siège dans le ciel et personne n'est au-dessus de lui. Et face à l'agitation des nations, face à la contestation des rois, Dieu répond en personne. Et ne passons pas trop vite à côté des termes qui sont employés. Regardez le verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Dieu réagit face à ceux qui ne veulent pas de son roi. Et cela le met en colère. Comment ça, vous contestez contre Dieu? Est-ce que vous savez contre qui vous luttez? N'avez-vous aucun égard pour sa sainteté et pour sa majesté? Il est Dieu. Il siège dans le ciel. Et vous contestez le choix qu'il a fait de son roi? Quand Dieu se met en colère, je peux vous assurer que personne ne reste indifférent. Cela est vraiment effrayant, et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Que dit Dieu dans sa colère? Eh bien, c'est le verset 6. « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi, l'autorité absolue, le Seigneur de l'univers, celui qui est au-dessus de tous. C'est Dieu qui a désigné David pour régner à Sion, au sein de Jérusalem, sur le peuple d'Israël. C'est Dieu aussi qui a fait cette promesse incroyable que nous avons entendue aussi tout à l'heure lorsque Laura nous l'a lue. Et je relis juste quelques extraits. Ce que Dieu a promis à David. Et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Voilà la promesse qui est faite à David. Incroyable promesse qu'il y aura toujours un descendant sur le trône du royaume qui appartient à Dieu. Et si Dieu fait ce choix, qui peut le contester ou l'invalider? Le roi qui a été choisi par Dieu est totalement légitime. Et c'est ce qui se confirme avec la suite du psaume. Verset 7, « Je veux proclamer, » c'est le psalmiste qui parle, « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et nous voyons une amplification de sa légitimité. Non seulement Dieu dit lui-même que c'est lui qui a choisi le roi d'Israël, mais en plus il y a ce décret qui établit une relation particulière entre Dieu et son oint. Le roi choisi par Dieu est appelé par Dieu lui-même « mon fils ». Comme dans la promesse faite à David. Le roi est comme, le roi en tout cas d'Israël, est comme adopté par Dieu au moment où il monte sur le trône. Il est reconnu par Dieu comme étant son digne fils. Et la formule « je t'ai engendré aujourd'hui » sert à introniser le nouveau roi. Et en ce qui concerne Jésus, eh bien nous retrouvons à plusieurs reprises le début de cette déclaration « tu es mon fils ». À différentes étapes de son ministère, est-ce que vous pouvez me dire lesquelles? À quel moment Dieu dit de vive voix « tu es mon fils » ou « celui-ci est mon fils » Le baptême est sur la montagne où Jésus a été transfiguré. Deux moments clés, effectivement, où il y a cette reconnaissance officielle, Jésus est fils de Dieu. Alors c'est vrai, avec cette ambiguïté, fils de Dieu en tant que Messie, en tant que roi, et fils de Dieu réellement dans sa divinité. Mais à quel moment Jésus a-t-il accompli l'ensemble du verset 7? Alors je vous ai donné un indice tout à l'heure. D'après l'apôtre Paul, au moment de sa résurrection. Et nous, Paul s'adresse aux Juifs dans une synagogue, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Quand est-ce que Jésus a accompli le psaume 2? Eh bien, au moment de sa résurrection. Sur la croix, on s'est moqué de la royauté de Jésus. Mais en le ramenant à la vie, qu'est-ce que Dieu a fait? En le ramenant à la vie, Dieu a donné toute la légitimité, a montré que, par une preuve évidente, que celui-ci est bien le roi qu'il a choisi. Sinon, il l'aurait laissé dans la tombe. Mais il est bien le roi qu'il a choisi. C'est à la résurrection que Jésus entre dans son règne en tant que Messie, en tant qu'ultime descendant de David. Et vous connaissez la suite du parcours de Jésus. Non seulement il est ressuscité, mais il est aussi remonté auprès du Père, à la droite de qui il est maintenant assis. Donc on est dans cette continuité où il est dans son règne jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, quand je parle de son règne, je parle de son règne en tant que descendant de David. Parce qu'évidemment, Jésus règne de toute éternité. Mais je parle là de sa royauté en tant que descendant de David. En tant que fils de Dieu, nous voyons aussi dans ce psaume 2 que le roi est héritier. Puisqu'il est fils, bien sûr, il peut hériter aussi de ce que Dieu a à lui donner. D'où le thème du verset 8. Vous êtes toujours avec moi dans ce psaume? Alors c'est vrai que volontairement je ne l'affiche pas, je vous affiche les textes parallèles pour que vous ayez le texte sous les yeux et que vous puissiez vérifier avec moi. Mais en tout cas, soyez à l'écoute encore. Le thème du verset 8 parle d'héritage. Mais quel est cet héritage qui vient de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pourrait donner en héritage à un roi? Alors bien sûr, le royaume d'Israël, mais pas seulement, parce que toute la terre appartient à Dieu. D'où le verset 8, écoutez, « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » À David et à ses descendants est faite cette promesse-là de régner sur toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. David et ses descendants reçoivent cette promesse. Toute la terre doit revenir à la lignée de David. Et nous savons que ni David, ni les rois qui ont régné sur Israël et plus tard sur Juda n'ont eu en héritage toutes les nations. Ça ne s'est pas passé de leur temps. Cette promesse n'a pas été réalisée de leur temps. À leur époque, la promesse était toujours en vigueur. On attendait toujours qu'il y ait un roi qui soit maître de toutes les nations. Et seul l'ultime descendant de David a reçu de Dieu les pleins pouvoirs, notre Seigneur Jésus. Et là aussi, si vous gardez cet arrière-plan en tête, les paroles de Jésus, une fois ressuscité, font sens quand il dit à ses disciples, Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu toutes les nations en héritage. » Et acte 1 va aussi dans le même sens avec l'autre expression. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, parce que les extrémités de la terre sont sa possession. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Tout est connecté. Et ici, très clairement, Jésus ressuscité, nous avons vu, entre dans son règne. Il reçoit en héritage toutes les nations. Et là, il peut donner la mission, aller dans toutes les nations. Tout m'appartient. Vous êtes toujours avec moi ? Le fils de David, Jésus, a reçu les pleins pouvoirs de Dieu. Et son royaume s'étend à toutes les nations, sur toute la surface de la terre. Et si certains ne sont pas d'accord avec ça, le verset 9 du psaume 2 indique dans cette même promesse qu'ils devront quand même se soumettre. Regardez le verset 9 qui est un peu dur pour nous. Qu'est-ce qui est promis ici au roi ? Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Vous avez déjà cassé un vase ? Ça vous est déjà arrivé ? Vous avez déjà vu ça, en tout cas ? C'est tellement fragile qu'en fait, une fois cassé, on ne peut plus rien en faire. Enfin, on peut toujours essayer de recoller les morceaux. Et ici, on voit avec quelle facilité cela nous est décrit. Tu les briseras comme le vase d'un potier. L'image, effectivement, peut étonner, mais au bout du compte, nous le savons bien par les Écritures, tout genou ploiera devant lui. Et cela concerne bien entendu les chrétiens, mais aussi les plus rebelles des hommes. Tous ploieront leurs genoux devant le Seigneur. Le pouvoir qui revient au roi choisi par Dieu est un pouvoir absolu. Vous pouvez essayer de contester, mais ça ne change rien. Et rappelons-nous encore une fois les paroles de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aucun roi, aucun grand de ce monde ne peut rivaliser avec celui qui a pour nom roi des rois et seigneur des seigneurs. Et puisque la révolte des nations provoque la colère de Dieu, et que David a reçu une telle promesse pour sa lignée, la fin du psaume 2 ne nous surprend pas tant que ça. Les rois de la terre reçoivent l'exhortation de lâcher les armes et de se soumettre. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 10. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Après avoir massivement démontré sa légitimité en tant que roi, le psalmiste interpelle « Et maintenant ?» C'est maintenant qu'il faut rendre les armes. C'est maintenant qu'il faut être sage, raisonnable, réfléchi. C'est maintenant qu'il faut écouter l'avertissement. L'Éternel et le roi qu'il a choisi sont prêts à laisser une seconde chance. Au juge de toute la terre, et peut-être que c'est une manière de désigner les rois, il est temps de reconnaître l'autorité de Dieu et de son nom. Maintenant. D'où les impératifs que nous avons ici. Servez, réjouissez-vous, rendez hommage. Et envers Dieu, il s'agit d'avoir une attitude empreinte de crainte et en même temps de joie. Seul Dieu, disait un commentateur, appelle un tel mélange d'émotions. Réjouissez-vous tout en tremblant. Seul Dieu appelle un tel mélange d'émotions. Devant qui d'autre vous vous réjouissez tout en tremblant? Et d'un certain côté, si Dieu ne nous fait pas trembler, c'est que nous ne le connaissons pas réellement. En tout cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si Dieu ne nous fait pas trembler du tout, c'est que nous ne le connaissons pas réellement. Et vis-à-vis du roi que Dieu a choisi, un grand respect est aussi demandé. Et il n'est pas possible d'honorer Dieu sans honorer le roi qu'il a choisi. Rendez hommage au Fils, disons-nous. Rendez hommage au Fils. Reconnaissez qu'il a été déclaré Fils de Dieu et adressez-lui votre allégeance. C'est un appel à la soumission, sous peine de subir sa colère qui nous fait penser à la colère de Dieu que Dieu a exprimée plus tôt dans le psaume. Et même si cela paraît un avertissement sévère, nous devons aussi voir la grâce qu'exprime cet appel. Rendez-vous, lâchez vos armes pour ne pas courir à votre perte. Dieu donne une seconde chance. Dieu témoigne de grâce. Servez l'Éternel, honorez son nom, celui qu'il a choisi, cela en va de votre intérêt. Et si cette allégeance était déjà demandée au souverain de l'époque, combien plus celui à qui tout pouvoir a été donné mérite aujourd'hui nos hommages. Jésus, le descendant de David en tant qu'humain, mais aussi le Fils de Dieu dans sa divinité, récapitule en lui l'honneur suprême que toute la terre lui doit. Pas seulement les rois, mais tous les êtres humains, toutes les nations. Et chacun d'entre nous doit se poser la question suivante. Suis-je à l'heure actuelle comme ceux qui résistent, qui clament leur autonomie vis-à-vis de Dieu? Ou suis-je de celles et ceux qui se sont ralliés au roi que Dieu a choisi pour nous gouverner? De quel côté est-ce que je me trouve en ce moment? Et ne croyons pas qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas parfois chercher notre autonomie vis-à-vis de Dieu. Mais où est-ce qu'on en est en ce moment? À qui sommes-nous totalement dévoués en ce moment? Si Jésus est mon roi, qu'est-ce que je fais pour son royaume? Si Jésus est mon roi, est-ce que ça change quelque chose dans mon quotidien? Si Jésus est mon roi, est-ce que je suis si différent de celles et ceux qui ne le reconnaissent pas comme roi? Si Jésus est vraiment notre roi, alors nous lui avons déjà soumis toute notre personne, notre allégeance, notre loyauté, notre amour ne vont qu'à lui. Est-ce que ma vie est si différente depuis que j'ai reconnu Jésus comme roi? Et à quoi ressemblerait mon quotidien si j'avais davantage conscience de Jésus, mon roi? Ce qu'il est possible de faire pour ne pas oublier ce dont nous parlons ce matin, c'est par exemple de commencer sa journée en chantant un des chants que Laura nous a proposé ce matin. Ou un autre chant que vous connaissez peut-être, que vous connaissez bien. Et pendant la préparation, j'avais aussi ce refrain que je vous livre rapidement. Vous connaissez ce chant? Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et si chaque matin, tu commences ta journée avec ce refrain-là, par exemple, ce serait un bon rappel. Et il y a, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le nom même de notre Seigneur, un moyen de ne jamais oublier sa royauté. Jésus-Christ. Jésus le Messie. Jésus le roi désigné par Dieu. À chaque fois que vous dites Jésus-Christ, vous faites référence à sa royauté. Commençons déjà par ce rappel quotidien. Et dès le matin, reconnais de nouveau le roi que Dieu a choisi pour régner sur toi, son nom est Jésus. Ensuite, prie qu'en cette journée, tout ce que tu feras puisse plaire à ce roi, à ton roi. Seigneur, mon roi, je te confie toute ma journée aujourd'hui, que tout ce que je fais puisse te rendre gloire et témoigner que tu es mon roi et que je t'appartiens. Amen. Et ça, je pense que c'est accessible à chacun d'entre nous. Mais j'ai bien peur que parfois nous oublions que Jésus est réellement notre roi. Et je termine avec la fin du verset 12. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient ou qui se réfugient en lui, qui trouvent refuge en lui. Alors en lui, on parle de qui ? Là aussi, il y a peut-être une ambiguïté. En lui, bien sûr, on parle de Dieu. Heureux tous ceux qui se confient en Dieu. Mais en fait, rien ne nous est précisé ici. Heureux tous ceux qui se confient en lui, eh bien peut-être le roi qui l'a choisi. Et si ce roi en question est Jésus, alors effectivement, de toute façon, ça ne change rien. En lui reste, s'adresse à lui directement. Et qu'est-ce que ça implique de faire confiance à Jésus en tant que roi ? Tout à l'heure, Laura nous a posé cette question. Qu'est-ce qu'un roi fait ? Qu'est-ce que cela implique de trouver refuge auprès de lui ? Eh bien, nous ne devons pas oublier qu'une des missions du roi, et qui nous a aussi été rappelée tout à l'heure, était de protéger son peuple. Mais plus particulièrement aussi de protéger son peuple de ses ennemis. Un bon roi, c'est pas, n'est-ce pas ce qu'il fait, justement, précisément ? De protéger son peuple de ses ennemis. Mais n'est-ce pas aussi ce que Jésus a fait pour nous ? Il est notre meilleur refuge, celui qui nous sauve du péché et de ses conséquences. Et vous êtes heureux si vous comprenez que c'est en lui que se trouve le salut. Vous êtes heureux si vous vous réfugiez en lui pour échapper à la colère à venir, ce jour où Dieu rendra entièrement sa justice, ce qui comprend la ruine, la destruction des rebelles et des méchants. Vous êtes heureux si votre confiance reste intacte, malgré les circonstances adverses, malgré la persécution, malgré le triomphe apparent du mal. Vous êtes heureux si votre confiance en lui demeure intacte. As-tu vraiment confiance en Dieu et en son nom, Jésus-Christ ? Veux-tu te mettre sous la protection de ce roi qui, par amour pour toi, est allé jusqu'à mourir pour tes péchés ? Avant de triompher de la mort par sa résurrection. Veux-tu te mettre sous la protection de ce roi ? C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut se soumettre à Jésus, le roi choisi par Dieu. C'est maintenant qu'il faut te confier, non pas en toi-même, ni en les autres, mais en lui seulement. C'est maintenant. C'est vrai que j'ai été un petit peu long, mais j'ai encore une petite conclusion. Le psaume 1 et le psaume 2 peuvent se lire ensemble et forment, pour certains en tout cas, la porte d'entrée de l'ensemble du recueil des psaumes. Dans le psaume 1, on insiste plus sur la loi de Dieu et sur l'obéissance. Dans le psaume 2, on insiste plus sur le roi de Dieu et sur la confiance. Et nous avons vu que le roi choisi par Dieu a été l'objet d'une grande opposition et que cela continue jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, Dieu, du haut de son trône, rit et se moque d'eux. Et son décret irrévocable concerne David ainsi que sa lignée. Et quand Jésus est venu, eh bien, tout a été accompli. La promesse d'une domination universelle s'est réalisée. Et d'ores et déjà, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut rester indifférent devant un si grand roi ? Soumission, hommage, confiance sont la juste et seule réponse à tant de majesté. Mes amis, nous ne vivons pas dans un conte de fées, mais nous sommes bien embarqués dans l'histoire d'un royaume. Le psaume 2 a pu nous le rappeler ce matin. Et ce roi qui demande notre allégeance nous a promis de revenir et de nous associer à son règne. Et si nous sommes confiés en lui, alors oui, nous attendons ce retour avec impatience. Vive le roi! Vous pouvez le dire avec moi, vis-à-vis de Jésus, bien sûr. Vive le roi! Prions ensemble. Oui, le psalmiste disait « Pourquoi tant d'agitation parmi les nations ? Pourquoi toutes ces préoccupations dépourvues de sens ? Et pourtant, Seigneur, ton décret est irrévocable. Tu as placé sur le trône de ton royaume celui que tu as choisi de la lignée de David. Et nous savons aujourd'hui que ce roi a pour nom Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous reconnaissons comme roi et maître. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions davantage en prendre conscience et vivre en conséquence de cette réalité, que nous sommes dans ce royaume qui t'appartient. Ce royaume qui, effectivement, n'est pas encore sur terre, mais que tu feras advenir. Ce royaume qui t'appartient, ce royaume qui a un roi et qui s'appelle Jésus. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir être entièrement dévoués, loyaux, de mettre toute notre allégeance à l'égard de ce roi que tu as institué. C'est toi qui as décidé que ce roi-là soit Jésus. Et il n'est rien de plus naturel puisque Jésus est ton fils. Il n'est rien de plus naturel puisque c'est à toi que revient toute domination. Alors, s'il te plaît, Seigneur, permets-nous de nous soumettre toujours et encore à ta seigneurie, à ton autorité, représentée par toi, Père, représentée par Christ, qui est le roi que tu as choisi. Nous te bénissons encore pour ce psaume 2, pour toute la richesse qu'il contient, et nous te remettons encore, Seigneur, notre vie entre tes mains. Ce sont nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu es le roi. Alors oui, nous le proclamons encore. Vive le roi. À toi soit le règne. Amen.